88.3.
Je croyais que c'était pas réel.
L'esprit pense que ça l'est.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire à la loupe. Aujourd'hui, nous allons découvrir, ou redécouvrir, le monde extraordinaire du manga, ou plus simplement, la bande dessinée japonaise. Nous devrions plutôt parler d'un univers plutôt que d'un monde, car la publication de ce support emblématique de la pop culture dépasse en nombre de titres, c'est-à-dire d'histoires racontées, autant qu'en nombre d'exemplaires vendus, la BD franco-belge et les comics américains. Venu du Japon, que l'on surnomme très poétiquement le pays du soleil levant, le manga a conquis l'espace planétaire en une trentaine d'années à peine, exerçant son influence sur ses collègues occidentaux. La bande dessinée franco-belge, en effet, s'est vue adjointe un nouveau format reprenant les codes du manga, tout en préservant l'aspect narratif de nos BD traditionnels, ce qui a donné le manfra, contraction usuelle de manga français. Il a également influencé le comic américain, notamment dans le graphisme, les personnages prenant un aspect plus androgyne, ou au contraire avec des expressions plus exagérées ou archétypales, des récits moins dichotomiques, plus nuancés, moins cartésiens. Comment le manga est-il devenu un art planétaire reconnu? Tout commence en Extrême-Orient, sur un petit archipel volcanique plus petit que la France. Le Japon, du fait de sa particularité insulaire et accidentée, est relativement isolé du continent asiatique. Tout commence en Extrême-Orient, sur un petit archipel volcanique plus petit que la France. Le Japon, du fait de sa particularité insulaire et accidentée, est relativement isolé du continent asiatique, hormis quelques migrations qui ont permis le développement de sa démographie sur plusieurs millénaires. L'influence majeure restera celle de la civilisation chinoise. Toutefois, du fait de sa configuration insulaire, le pays va développer et entretenir une civilisation originale. Le manga est une expression culturelle née de ce développement et va accompagner l'histoire du Japon dans son ensemble, ce qui en fait son identité unique. À commencer par ses traditions, le Japon est influencé par le bouddhisme venu de Chine au 7e siècle de notre ère. Prônant l'harmonie, cette nouvelle religion cohabite avec la religion autochtone, le Shinto, qui est le culte des esprits de la nature et des ancêtres. La langue japonaise, dont l'écriture est syllabique, se voit adjoint des idéogrammes que l'on appelle kanji, qui sont inspirés de modèles chinois. Ce procédé symbolique, très visuel, est constitutif de la mentalité japonaise. Des rouleaux dessinés, les emaki, sont des dessins très colorés représentant la vie des animaux. Les espaces libres de dessin sont destinés à l'écriture. L'écrit est intégré harmonieusement à l'image. Ce sont les premiers récits dessinés à vocation populaire, car ils sont reproduits sur les murs des temples, à l'attention des badauds. Deux choses se distinguent. Une propension à la nature, à l'irrévérence, au surnaturel et au ridicule. Des thèmes chers à l'imagerie populaire, et sa confrontation à l'ordre, au raffinement, à la rigueur, qui sont des valeurs propres à l'aristocratie. Le populaire se défie du noble. Volontiers outrancier et démonstratif, il allie le ridicule et le drame avec un aplomb déconcertant. Mais loin de se détruire l'un l'autre, ces deux aspects échangent pour trouver une voie commune, car ils forment un tout. Les traditions du pays. Quand le manga s'exporte, les Japonais ne comprennent pas pourquoi. Ils sont radicalement persuadés que cette forme de bande dessinée est fondamentalement ancrée dans leur culture et inadaptée aux autres, plus particulièrement celle d'Occident. Parce qu'il s'en défie, justement. En 1853, le commodore Matthew Perry force le Japon à s'ouvrir au monde après 250 ans d'isolement forcé. S'ensuit une période trouble qui va aboutir à la restauration du pouvoir impérial et l'avènement de l'empereur Mutsuhito, dénommé Meiji, en 1868. C'est alors une occidentalisation et une modernisation à marche forcée que connaît le pays en près de 30 ans. Passant de l'ère féodale à l'ère du progrès. Mutation fantastique qui touche aussi l'expression culturelle comme la bande dessinée. Les Japonais découvrent le comic strip, sorte de courte bande dessinée issue de la presse américaine qu'ils reproduisent dans leurs propres journaux. Ils intègrent les influences nées sous l'ère Edo, précédant Meiji, au canon du dessin occidental. La ligne claire, dont un certain Hergé, auteur de Tintin, se fera le défenseur, et les aspects comiques et dramatiques, irrévérencieux, traditionnels. Très vite, le public aime ces publications et des magazines publiés par de grandes compagnies d'édition qui existent toujours, la Kodansha et la Shueisha, publient sous la forme de revues et de volumes les récits d'auteurs qui ont un débit de production colossal. La demande étant énorme, près de 60 pages sont fournies par auteur par semaine, ce qu'un auteur français produit, lui, en un an. Cette production ne passe pas inaperçue à l'étranger, puisqu'un mangaka recevra la Légion d'honneur à Paris en 1929 pour sa contribution à l'art. C'est en 1978 que le déclic arrive et que petit à petit la reconnaissance du manga comme art majeur va opérer. Et ce, malgré ses détracteurs, admirateurs de la culture japonaise traditionnelle, qui chercheront par tous les moyens de torpiller son influence. Or, justement, le manga est l'héritier d'une tradition populaire, tout aussi valable et authentique, qui ne renie nullement ce substrat traditionnel avouable et reconnu par nos élites, mais qui n'est qu'un aspect du véritable Japon. Le manga reflète l'ensemble de ce qu'est la culture japonaise, en harmonie avec le reste du monde. Manga signifie « image déformée ». Le terme est apparu en 1907. Il désigne une expression déformant la réalité pour mieux la révéler au lecteur. L'esthétique formelle, celle que l'élite défend, est un modèle plaqué sur les mentalités afin de discipliner et éduquer un peuple qui avait connu des années de guerre civile, puis la déchéance après 1945. Les stigmates de ces conflits ont été mis en avant pour redorer l'image du pays, lui rendre sa fierté et son honneur qui avaient été bafoués. La confrontation du formel et du populaire irrévérencieux ont donné un art visuel unique qui est arrivé jusqu'à nous. Près d'une trentaine de titres apparaissent dans les années 90 en France, pour 1200 en 2008. Le bond est énorme. Les États-Unis découvrent des titres emblématiques tels que Dragon Ball et Saint Seiya près de 20 ans après les Européens, ce qui a donné des adaptations cinéma et streaming sur Netflix. L'engouement occidental pour le manga vient sans doute déjà de l'aspect exotique du support, car très éloigné de nous, il suscite notre curiosité. Ensuite, son style fortement visuel en fait davantage un parent du cinéma, à l'instar du roman photo, que de la littérature. La planche d'un manga évoque plus le storyboard. Nous sommes une civilisation de l'image, et c'est ce qui nous impacte le plus. Le manga a apporté sa contribution à l'édifice universel. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée, et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire à la loupe. Au revoir.
Thank you. Shredded charge. erect, firm, erect, firm, erect, firm, erect, 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 erect.
Salut tout le monde, bienvenue dans Starting Block. Aujourd'hui, c'est Patrick de Radio Campus Angers qui vous parle d'un groupe de la scène rock locale, c'est Bermude. Salut Elliot.
Salut.
Donc Bermude, c'est ton projet. Alors c'est un groupe, mais à la base, c'est vraiment ton projet.
C'est ça.
D'ailleurs, c'est même toi qui as joué tous les instruments sur ton album, si je
Alors non, sur le non, disque. Pardon.
Sur le disque, non.
Ouais, tout le monde joue, mais c'est moi qui ai composé.
Mais t'avais tout composé au préalable, ouais, voilà. D'accord, c'est toi qui avais tout dans ta tête, quoi.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et puis surtout la genèse de Bermude? Depuis quand tu as ce projet, en fait?
Bermude, c'est né de démos que j'avais avec moi sur mon ordi, quoi, depuis un moment, et notamment depuis les confinements et tout. Voilà, j'avais pas mal écrit à ce moment-là. Et donc c'était un projet que j'avais avec moi, que je voulais au début sortir comme ça, en solo. Et en fait, je me suis vite rendu compte que les raisons pour lesquelles je faisais de la musique, c'était notamment pour la partager avec d'autres musiciens, d'autres gens. Et voilà, je me suis vite aperçu qu'il fallait que je monte un groupe, quoi. Donc, Bermude est né, voilà, en demandant à des potes du réseau Angevin de m'accompagner sur ce projet.
Et donc, tu avais déjà un album entier de morceaux prêts, finis
C'est ça, même un peu plus, parce qu'il y en aura certains que je n'ai pas fait sur ce premier album et qui seront sur le deuxième, certainement. Donc,
Et tu leur as dit, tiens, venez, voilà, venez jouer avec moi mes morceaux, voilà, j'ai ça, 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 allons-y, quoi.
C'est ça, ouais. Et après, tout le truc, ça a été aussi que les gars sont imprégnés de ce que moi je leur ai donné, et puis ils les ont adaptés un peu à leur sauce, quoi. Donc c'est là que ça crée quelque chose de riche.
L'intérêt de pas continuer, ouais, tout seul.
Ouais. Exactement, ouais.
Et alors parle-nous un peu de ton parcours. Donc t'es actif actuellement dans déjà un autre groupe qui s'appelle Limboy.
C'est ça.
Par ailleurs, qu'est-ce que t'as pu faire avant?
Avant, je jouais dans un autre groupe qui s'appelait Jumai. Qui est en stand-by pour l'instant, avec qui on avait aussi joué à Lévitation d'ailleurs en 2019. Voilà, j'ai eu d'autres groupes avant, des groupes de lycée et d'études. Voilà, et moi par ailleurs, je suis technicien du son. Voilà, j'ai un studio qui s'appelle La Cuve Studio à Angers.
Qui est un peu le studio de référence pour les groupes de rock d'Angers qui viennent enregistrer.
Disons que on en a fait quelques-uns et c'est un peu ça. Nous, on aime bien faire ça. Donc, je le partage avec un pote, Stu, qui lui aussi fait partie de pas mal de groupes sur Angers. On a créé ça en 2020, il y a 3 ans, quoi. Voilà. Et en effet, on voit passer pas mal de groupes d'Angers, de rock d'Angers, mais pas que, puisqu'on a enregistré des groupes de Paris aussi, et même des groupes d'Austin.
Et vous avez enregistré un groupe américain récemment,
ouais. Giant Dogs s'appelle.
Et alors, au milieu de tout ça, donc tu l'as dit au début, c'était pendant les confinements, tu t'es lancé dans ce nouveau projet en plus, quoi. Ouais. Comment est-ce que ça s'intègre pour toi personnellement dans est-ce quelque chose que en plus que tu voulais, est-ce que ça, qu'est-ce qui te manquait en fait finalement pour faire Bermude? Alors je précise, Bermude c'est sans E, hein, pour que les gens qui veulent
Bermude, ouais.
Voilà. Donc t'as lancé Bermude en te disant, alors au début tu t'es dit bon voilà, j'ai des morceaux, je vais les maqueter machin.
Ouais.
Après c'est devenu un vrai groupe, mais finalement avec un petit peu de recul maintenant, quelle place ça occupe pour toi dans toutes tes activités?
C'est vrai qu'avec depuis la sortie du premier album là en mars dernier, il y a eu un petit engouement, la sortie chez Riverstape, un label de Tours, et c'est vrai que maintenant que toute l'aventure est un peu partie, ça, Lévitation, c'est vrai que moi, ça m'a poussé à continuer d'écrire, surtout, en fait. Donc là, c'est un peu le prochain objectif, c'est un peu deuxième album et voilà, en fait, continuer le truc. J'avais des morceaux que j'avais pas sortis sur le premier.
Ouais.
Et en fait, c'est vrai que il y a le petit engouement qu'il y a, ça pousse, ça donne un souffle, une énergie, quoi, pour continuer.
Est-ce que du coup ça a pris une espèce d'ampleur que tu n'avais pas imaginé au début, parce que tu lançais ça juste comme un petit truc pour toi tout seul,
de toute façon, à la base, au début, moi je pensais sortir un EP sur Bandcamp. L'idée de, voilà, j'avais 4
comme
morceaux
ça, enregistrés dans ta chambre,
voilà, ouais. C'était ça, sortir le truc sur Bandcamp. Bon, après il y a eu le truc du groupe, et puis les gars, ils m'ont poussé, ils m'ont dit là il y a 8 morceaux qui sont vraiment cool, vas-y, on fait l'album, on sort l'album. Et en fait, petit à petit, en échangeant avec les Stop Foxes, qui ont ce label à Tours, Riverstape, ils sont là, trop cool Bermude, vas-y, est-ce que t'es chaud qu'on sorte l'album chez nous, quoi. Et là j'ai fait génial, et là c'est devenu d'un coup un vinyle en physique, avec un peu de presse, un peu de machin à droite à gauche. Et trop cool.
Tout ça, ça s'est fait naturellement, sans que tu cherches vraiment
Petit à petit, en fait, en lançant 2-3 petites bouteilles à la mer. Et puis, en fait, le réseau, des rencontres passées. C'est vrai que ça fait plus de 10 ans que je fais de la musique, et notamment dans la région. Donc, en fait, il y a des connexions, il y a des trucs. Et puis, quand les choses se passent comme ça, c'est trop cool.
Donc, en fait, quand tu avais un projet, tu avais déjà pas mal de monde autour de toi susceptible de dire, tiens, je joue avec toi, je sors ça sur mon album. je te propose une date, enfin, ouais, toutes ouais, les ouais. étapes.
Et en même temps, pas grand-chose de calculé à la base. Quoi. Vraiment, moi, je te dis, l'objectif, c'était un EP sur Bandcamp. Hein. Donc ouais, très chouette, je suis hyper content en fait, je suis hyper fier et ouais, très content, très heureux.
Eh ben on va écouter un premier extrait de ton album, c'est un peu le single, hein, I'll Wait For You,
c'est, ça,
c'est
ouais,
celui pour lequel
ouais,
t'as
ouais.
fait un clip, enfin, voilà. t'as fait faire un clip. Voilà, on va parler après un peu de tes influences et de comment tu définis ton univers musical, mais écoutons déjà ce que ça donne, I'll Wait For You de Bernie. Il est sorti en avril.
En mars.
Mars, voilà.
Le 31 mars. 31 mars.
Ah ouais, donc quasi
avril.
Il s'appelle Chatter Human. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ce titre déjà?
Alors, Chatter Human, c'est le nom d'un personnage dans le roman de science-fiction d'Isaac Asimov, Fondation. Et c'est un personnage un peu central qui est décrit comme un idéaliste sincère. Voilà, c'est quelqu'un de généreux et de foncièrement bon qui aide les gens volontairement, quoi, avec beaucoup de gratitude. Et c'est, voilà, c'est donc, un peu ce que je voulais exprimer.
Oui, voilà, plutôt positif comme voilà, type de, d'identité. Mais au-delà de ça, il y a aussi le côté Asimov, le côté science-fiction.
C'est ça.
Ouais. On retrouve ça, alors je ne sais pas forcément dans le visuel, etc. Mais en tout cas, dans ton univers, dans tout ce que toi, t'aimes bien.
Ouais, dans les paroles, il y a des petits clins d'œil, en fait. Un peu parsemé comme ça dans les paroles. Et puis moi, c'est vrai que ouais, le côté un peu grandiloquent, on entend dans I'll Wait For You, voilà, des gros grands refrains scandés comme ça, avec de la grosse guitare un peu nébuleuse. Moi, ça me fait penser au cosmos, à tout ça, quoi, quelque chose d'un peu qui nous dépasse un peu et puis qui est un peu onirique, quoi, qui va un peu...
Donc c'est l'image que tu essayes de retranscrire
Via la musique, esthétiquement et en même temps dans les paroles aussi.
Est-ce qu'il y a aussi du coup une espèce de, je sais pas, de côté fan des ovnis, de X-Files, ou pas?
Moi j'ai beaucoup lu de science-fiction en étant ado et toujours aujourd'hui en fait, de la science-fiction anticipation et notamment Asimov. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a Aldous Huxley, plein d'auteurs comme ça, d'anticipation, de science-fiction, et qui m'ont, qui m'inspirent beaucoup, en fait, que ce soit dans la musique, mais aussi dans d'autres domaines, quoi. La science-fiction, c'est en tout cas en roman, je trouve que ça met toujours l'homme, l'humanité, en tout cas l'homme avec un grand H, à sa petite échelle, ouais, quoi, face, ouais, au cosmos, à l'univers, au temps, et que finalement on n'est pas grand chose et que ça nous rend plus humbles, je crois, de réaliser ça à des moments.
Et donc quand t'as, donc toujours pendant le confinement où t'as commencé à composer toutes ces chansons, naturellement c'est quelque chose que t'as glissé dans ta musique, quoi.
Bah ouais, en plus le confinement, tu vois.
En plus,
ça arrive, l'ambiance était dans une dystopie, t'es là genre waouh. Bah ça par exemple, c'est le titre Fear. C'était vraiment ça, quoi.
On va écouter tout à l'heure. Ouais. C'était inspiré de l'ambiance de ce que
tu ressentais. Fear when you walk outside. Tu vois, c'était le truc. Putain, on peut pas sortir sans un paplard. Qu'est-ce qui se passe? Tout est arrêté. Tout est.
On
machin.
Se croirait dans une série.
Et voilà, et on se croirait dans la science-fiction. Et donc, moi derrière, ça y est, c'est parti. Ça a déroulé, quoi, direct.
Ouais, t'en as créé quelque chose, quoi.
Réussi à en créer quelque chose. Ouais, ouais.
Et sinon, musicalement, donc tu combines pas mal d'influences, qui restent tout dans le monde du rock, hein, mais
c'est le triangle des Bermudes, de l'indie, du shoegaze, du grunge, quoi, des années 90, quoi. Ouais. Moi, c'est, je crois que c'est, en fait, quand j'ai commencé à faire de la gratte, j'avais 10 piges, quoi, et en fait, c'est des groupes où j'ai commencé à écouter de la musique au collège, et en fait c'était les groupes que je jouais, quoi, à la guitare. C'est comme ça que j'ai appris à jouer de la guitare et à chanter.
Alors c'est qui tes grands, ton panthéon de...
C'est Nirvana, au collège beaucoup Nirvana, après ça allait aussi jusqu'au Clash, tout ça, mais Pixies, Violent Femmes aussi, même si c'est un peu en dehors, mais...
Du coup, ça se ressent pas. Mais dans ce que toi, tu imagines... Alors, c'est difficile quand c'est ta propre musique, mais si tu prends un petit pas de recul et tu écoutes ta musique, tu dis « Ah, ok, là, je reconnais à peu près ci, à peu près ça », tu dirais quelles influences principales?
Disons que, je dirais que Pixies, Oasis aussi, pas mal, ouais, quand même.
J'allais le dire, mais je préfère que tu le dises, parce qu'on sait jamais comment le musicien va le prendre.
Après, il y a pas mal des groupes... un peu indie, genre Pavement, vois. Pavement, ça c'est des trucs qui en fait, je fais pas mal de parallèles, quoi. J'aime bien leur démarche aussi, en fait, tu vois, le truc vraiment très indé, puis type qui font de la musique comme ça, ils tracent, ils se posent pas trop la question de savoir si ça va popper ou pas. Et puis Dive, quoi, aussi beaucoup,
récent, ouais. On va pouvoir le vérifier en écoutant un deuxième extrait de ton album. Alors celui-ci, tiens, tu peux peut-être nous en dire deux mots. Il s'appelle Wire.
Là pour le coup, moi je trouve c'est marrant. Ce titre, moi, il me fait penser aux États-Unis, quoi. Déjà par le riff, tout ça, il y a un petit côté un peu américain. Et puis les paroles, c'est vraiment l'idée d'essayer de kiffer un peu la vie de tous les jours et tout ce qui nous arrive un peu au jour le jour. Et du coup, c'est un peu le titre happy du.
Ouais, voilà. C'est celui
de
où
l'album.
Tu penses pas au Covid et à la science-fiction,
ouais, voilà,
et
ça,
la dystopie.
Là, c'est là, faut kiffer, quoi. Vas-y, c'est trop cool et let's go, quoi.
Et ben voilà, Wire de Bermude. On peut citer Nirvana, les Pixies et Pavement, mais on peut aussi citer Radio Oasis quand même, je dirais, je me permettrai, hein. Ouais, comme tu l'as dit, de toute façon tu l'as mentionné tout à l'heure, dans tes influences. Alors tu as joué fin mai, donc très récemment, au Festival Lévitation à Angers, qui est un festival d'origine américaine, hein, qui a son édition française à Angers depuis quelques années.
Ça. Qui vient d'Austin au Texas. Ouais.
Qui est originaire d'Austin, comme le groupe que vous aviez enregistré.
Voilà, Giant Dog.
Ouais, ouais. Alors c'est une super, déjà c'est un gros festival, il y a quand même pas mal de milliers de personnes qui viennent, il y a beaucoup de gens qui viennent de Nantes, de Paris pour ça.
Ouais.
C'est une chouette fenêtre.
Ouais. C'est vrai que la temporalité avec la sortie de l'album juste avant, c'est vrai que c'est plutôt sympa, comme ça permet quand même pas mal de visibilité.
Et donc c'est un festival qui se veut de rock psychédélique.
Ouais.
Est-ce que tu trouves ta place au milieu de... Par exemple, il y avait cette année les Andy Warhols en tête d'affiche.
Ouais, voilà. Bah, par exemple, Andy Warhols, typiquement, c'est un groupe que j'écoutais quand j'étais au collège et que je jouais de la guitare.
Et maintenant, tu es sur la même scène. Quoi.
Voilà. Donc ça, c'est des petits moments assez chouettes, ouais. Et c'est vrai que c'est psyché, du coup il y a
au sens large,
voilà. Mais c'est vrai que d'avoir un public très ciblé comme ça pour ce genre de musique, en tout cas, c'est une super exposition. Et puis c'est vrai que du coup il y a des gens, c'est déjà un public conquis entre guillemets. Ouais. parce qu'on s'inscrit complètement dans cette lignée-là, donc c'est vrai que c'est hyper chouette.
Donc ils connaîtront pas forcément Bermude, enfin ils connaissaient pas forcément Bermude,
voilà.
mais
potentiellement,
mais, voilà. ça a pu leur plaire.
Voilà.
Donc c'était pas aberrant de te retrouver. Surtout qu'à chaque année, le festival met un point d'honneur à faire jouer des groupes, quelques groupes locaux.
Voilà.
Donc là, cette année, Bermude a profité de ça. Alors toi, tu te produis aussi en solo.
Ouais.
Puisque t'as gardé un peu finalement ce côté projet de moi tout seul.
Ouais, voilà. Ouais. Bah en fait, comme les morceaux à la base, je les écris vraiment guitare voix. Ils ont ce squelette qui existe de chansons vraiment de chansons quoi, presque folk ou en tout cas voilà où le texte et la voix ont vachement d'importance. Et en fait, j'avais commencé un peu par hasard comme ça. À les jouer en solo. Alors c'est quelque chose que je faisais il y a très longtemps ça et que j'avais pas fait depuis un moment. Et donc je recommence à les jouer en solo. Et en fait l'idée c'est que je voulais pas réarranger les morceaux pour les jouer en solo. Donc c'est vraiment juste
une partie
guitare,
ouais.
Des guitares rythmiques et le chant. Et en fait ça se tient. Il y a quelque chose de cohérent. Donc je fais la guitare électrique quand même. Donc il y a quand même quelque chose de il y a quand même l'univers de la guitare un peu shoegaze qui est là.
Quand même un petit peu de bruit. Ouais.
Voilà. Mais c'est du guitare-voix. Et puis ça permet aussi de jouer dans d'autres lieux en fait, que des salles de concert, d'avoir
plus de mobilité. Mais par contre, pour toi, entre jouer à quatre ou jouer avec une batterie, etc., ou jouer tout seul, ça n'a rien à voir. Tu joues rigoureusement la même chose,
ouais,
c'est pas du tout
ouais.
Le même
exercice.
Ah bah non,
exercice. C'est pas du tout le même exercice. Par contre, c'est vrai que de rejouer les morceaux tout seul, ça m'a replongé en fait, dans les textes, dans les chansons vraiment. Et j'ai vraiment cherché à retrouver quelles émotions en fait j'avais cherché à transcrire là-dedans. Et donc en fait c'était un super exercice pour ensuite les rejouer en groupe. Je crois que j'étais encore plus dans l'expression du texte et de ce que je voulais transmettre quoi.
Et là aujourd'hui tu alternes un peu, tu fais tantôt des concerts en groupe, tantôt des concerts en solo.
Voilà.
Peut-être plus en groupe quand même.
Ouais, ouais.
Mais c'est l'un et l'autre sont des trucs que t'aimes bien, qui se nourrissent
ouais, complètement quoi. ouais. Alors j'adorerais encore tourner plus avec le groupe, mais c'est sûr que d'avoir ça en solo de temps en temps à côté, c'est très chouette aussi. Ouais.
Alors justement, tu joues le 20 juin en solo précisément,
voilà.
Exit Music for a Drink, qui est le disquaire indé du centre-ville d'Angers.
C'est ça.
Donc un endroit très logique aussi pour toi, pour te produire, où le public qui vient là, ce sont les gens qui sont susceptibles d'écouter Bermude. Et puis tu as aussi déjà une date qui est prévue pour cet été à Tours.
Ouais, au Foudre, à la guinguette Le Foudre.
Le 22 juillet.
Voilà, ce sera une
Donc là, par contre, Bermude, groupe complet.
Au complet, c'est une carte blanche du label Riversafe.
Ah, ils vous ont invité en fait.
Voilà, c'est
oui,
ça.
C'est tout à fait, c'est logique. Finissons en parlant un peu d'Angers, ta ville, notre ville,
oui.
La ville de Radio Campus Angers qui vous propose cette émission aujourd'hui. Tu es extrêmement bien intégré forcément dans la scène locale, de par tes différents groupes, de par ton studio aussi qui voit défiler
ouais.
Tout le monde, comme tu disais. Quel regard est-ce que tu as sur tout ce petit monde en plus, quand tu vas jouer dans d'autres villes, est-ce que tu peux comparer avec comment ça se passe ailleurs? Comment est-ce que tu vois tout ça de l'intérieur?
De l'intérieur, en fait, je trouve que depuis quelques années, là, je dirais depuis 5 ans, il y a une nouvelle énergie, un nouveau souffle et c'est extrêmement productif. Quoi. Angers, c'est très cool. Il y a beaucoup d'interactions en fait, entre les gens, entre les groupes. Et alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais par contre, je sais ce que... Cette émulation, elle permet en fait de créer plein de connexions en fait avec d'autres villes en fait et que ça se recoupe. C'est vrai qu'entre le garage, le Jokers,
qui sont les deux salles de concert
de musique indé, en fait ça arrête pas de faire du ping pong avec les gens qu'on accueille et qui passent par Angers quoi. Et là ça crée plein de liens en fait dans tous les sens parce que c'est ça, c'est une espèce de réseau en toile d'araignée. Il y a plein d'échanges, quoi.
Donc plutôt productif.
Productif et très positif, ça fait con. Et notamment, je crois que ça fait beaucoup de bien à la musique indé. Et Angers, aujourd'hui, grâce au Garage et aux Jokers, sont un peu des défendeurs de ce style de musique et de cette façon de faire de la musique, en fait, aussi, que je trouve assez important et qui doit être défendu,
Eh bien, on va se quitter. Notre temps est déjà arrivé à sa fin. Avec, alors, le morceau dont tu parlais, Fear, hein, le morceau de confinement, ouais. Voilà, dystopie, tout quelque chose qu'on a tous un peu déjà oublié, mais tous vécu, en tout cas, il n'y a pas très longtemps du tout. Merci beaucoup, Elliot.
Avec plaisir.
C'était donc Bermude dans Starting Block avec Radio Campus Angers.
Ciao.
Voilà, voilà. Merci à Margot, à la technique et à bientôt.